Chapitre 23. Deux frères. Lorsque le bateau de sauvetage revint, ramenant les six hommes et le mousse d'une barque de pêche de Douarnenez qui, drossée par le courant et surprise par la rapidité du coup de vent, s'était perdue sur les écueils entre le Gué et le Grand Léar, ce fut dans la population féminine de Camaret un redoublement d'émotion. Il y eut une émulation d'enthousiasme comme on n'en avait peut-être jamais vu dans le petit port, même pour les sauvetages les plus difficiles et les plus périlleux. Une telle clameur de joie accueillit les arrivants qu'ils en furent un moment embarrassés et que, malgré la profonde satisfaction qui lui baignait le cœur, l'abbé dut protester, essayant de dissimuler le sourire heureux crispant ses lèvres.
Allons, allons, du calme, la paix, la paix.
Il retrouvait pour se défendre un peu de l'humeur bougonne qui lui faisait vertement rabrouer dans son église les dévotes d'une assiduité trop exagérée, celle auquel il disait
« Vous feriez mieux de soigner votre ménage, de vous occuper de vos enfants et de votre mari que de passer toutes vos journées ici à prier Dieu. Vous l'ennuyez, le bon Dieu !»
Il les retrouvait là avec leur obséquiosité habituelle, plus empressé que les autres après lui. Mais il ne put se montrer longtemps bourru, car, avec elle, s'avançait celle dont le grand cœur, l'inépuisable charité lui était bien connue, et qui, ce jour-là, trouvait pour le féliciter des mots partis du fond de l'âme. Il ne voulut cependant pas accepter pour lui tout seul une pareille manifestation, qui s'adressait peut-être autant à son caractère sacré, à la robe dont il était revêtu, qu'à l'homme lui-même. Posant la main sur l'épaule de Nédélec Gualen, qui, son rôle terminé, se tenait modestement derrière les autres, et le désignant à la population massée sur le quai, il déclara
« Voici celui que vous devez féliciter. C'est lui qui a sauvé les naufragés. Sans lui, sans son courage, sans son adresse, jamais nous n'aurions pu doubler la passe du Toulinguet, nous diriger à travers les roches et arriver jusqu'à la barque en perdition. »
Nédélec fit un mouvement de modestie. « Mon rôle a été bien simple, mais les hommes de l'équipage protestaient. Sans lui, nous étions à la côte. » L'abbé ajouta
« Il nous a guidés comme le plus fin marin. Les roches, les fonds, les courants, il sait tout. »
Un revirement se faisait dans les esprits en faveur de cet homme, plutôt craint, redouté que vraiment aimé, et auquel on n'avait affaire que quand on ne pouvait faire autrement. Les femmes, surtout, à part tante Rosalie et quelques autres, lui avaient toujours montré une défiance particulière, aussi vive que l'était leur curiosité, leur attirance secrète pour cet être qui renfermait pour elle le grand attrait irrésistible, le surnaturel, le mystère. En ce moment protégé, félicité par le recteur en personne, il devenait pour elle un être tout à fait supérieur. Cette fois, en faisant de lui cet éloge public, l'abbé Kerbiriou ne sentait pas le besoin de combattre et de refouler ses précédentes et injustes répulsions pour l'homme du cap de la chèvre. Il lui rendait simplement justice, avec la netteté de pensée, la grande carrure de hardiesse qui formait le fond de son caractère. Tandis qu'il avait eu pour Gualen de la méfiance, même de la haine, il les avait eus sans aucune restriction, sans atténuation, en ardent et convaincu défenseur d'une cause sainte, en champion de l'Église, se dressant pour abattre l'erreur, repousser le démon. L'étudiant de près peu à peu, chaque jour davantage, pénétrant dans cette âme qu'il croyait une âme sombre, possédée par l'ennemi du genre humain, il avait pu se convaincre que rien de ce qu'il se figurait n'existait chez cet humble. Alors, en le voyant si dévoué pour son neveu, tout le temps qu'il lui avait donné ses soins avec une conscience, avec un zèle qui ne s'était pas un moment démenti, en le trouvant à l'heure du danger aussi empressé que lui à en prendre sa part, en constatant de plus en plus que, chez lui, rien n'autorisait à en faire un païen, un être sans religion, il avait senti un trouble profond l'envahir, une sorte de remords de la dureté, de l'injustice avec lesquelles il l'avait toujours traité. Il avait fini par se dire qu'il en était de ce Rebutu un peu comme des compagnons de Jésus, des grossiers pêcheurs du lac de Tibériade, qui, dans leur enveloppe commune et rude, portaient l'âme de vérité, la parole de vérité. Il semblait en désaccord avec l'Église, telle que lui, prêtre, la voyait, telle qu'on l'enseignait actuellement. Mais il était en réalité avec l'Église primitive des premiers âges, avec la doctrine des humbles des premiers temps. En ce jour, à cette heure, après s'être rencontrés pour ainsi dire malgré eux, par suite de l'arrangement fatal et inattendu des événements, sous une impulsion mystérieuse qui venait peut-être de Dieu, par le dévouement, par la bonté, ils venaient de se reconnaître semblables, de la même chair, du même sang, du même cœur, eux qui semblaient en apparence à première vue si différents, si loin l'un de l'autre, le prêtre, le Rebutu, c'est-à-dire pour beaucoup le sorcier. Tante Rosalie n'avait pas hésité, elle, et depuis longtemps, au fond de sa pensée, étaient tapis ces mots, qu'elle articula à mi-voix, en les voyant sur le quai de Camaret, debout l'un près de l'autre, la main du prêtre posée sur l'épaule du Rebutu. Deux frères. Par sa déclaration publique, l'abbé Kerbiriou donnait en effet à tous un exemple frappant. C'était en s'interrogeant sérieusement, en fouillant sans faiblesse et sans colère son propre cœur, que le prêtre avait compris que ce sorcier, que ce Rebutu vivait seulement pour le bien des autres, que, de lui, émanait une bonté identique à la sienne, et que, s'il semblait en une trompeuse apparence éloigné de l'Église, de la religion, il était en réalité plus chrétien que bien des chrétiens, par l'incessant esprit de charité, par l'infatigable amour du prochain dont il faisait preuve. Sa vie entière, il l'avait consacrée aux pauvres, aux souffrants, ce qu'il avait appris sans maître, d'intuition peut-être, à force d'observation, dans la constante communion de la nature, dans la vie contemplative des choses, des plantes, des phénomènes célestes et terrestres, il s'en servait exclusivement pour soulager, pour guérir, toujours pour faire le bien. Une fois de plus, le curé de Camaret venait de le constater en admirant la vaillance simple, le courage calme et résolu avec lesquels Gualaine avait risqué sa vie pour les autres, malgré son âge, malgré sa profession. C'est pourquoi, sans embarras, sans fausse honte, le prêtre n'hésita pas une seconde à s'incliner devant le Rebutu, avouant en lui un frère en charité, un frère en Dieu. Tous ses préjugés tombaient devant cette âme simple et naïve qui était pour tant de malheureux le soulagement, le repos, l'espoir. Il vit que l'Église ne donnait pas seule ses qualités désintéressées et que, à force de bonté, un être de simplicité, non élevé dans le giron de l'Église, pouvait arriver au même degré de sainteté, de charité, que le prêtre, l'homme de Dieu. Ce fut tout pensif, alourdi de ses réflexions, qu'il regagna le presbytère. Il trouva Marie-Anne plongée dans l'anxiété, car elle avait appris son départ par le bateau de sauvetage, et depuis aucune autre nouvelle ne lui avait été apportée.
« Seigneur Dieu, où avez-vous été ainsi, monsieur le recteur ? » s'exclama-t-elle en le voyant rentrer.
« Faire mon devoir, »
reprit l'abbé. Puis, s'informant aussitôt de Denis, « Comment va-t-il ? » Elle se mit à rire, bien que ses yeux fussent encore pleins de larmes d'inquiétude.
« Un miracle, un vrai miracle ! Il s'est levé, il est gai, il meurt de faim !» Une résurrection, vous allez le voir dans son fauteuil. »
Le prêtre secoua un moment la tête, murmurant « Les voies de Dieu sont impénétrables. » Et, se tournant vers la vieille servante, «
il pourrait supporter une grosse, grosse joie. »
Manaïque fut prise d'un tremblement, saisie, n'osant comprendre. Elle questionna.
« C'est-il du vrai bonheur que vous voulez lui apporter, de celui qui l'attend ?»
Il eut un sourire un peu résigné.
« Ah, il attend. Tu es donc dans ses secrets, toi ?»
Elle fit un signe affirmatif, d'un clin léger de ses yeux, la respiration coupée par la joie et s'excusant.
« Dame, sa maman un peu que je suis. Alors, vous comprenez ?»
Il se dirigea rapidement vers la porte, l'ouvrit, vit son neveu debout, appuyé au fauteuil, encore un peu vacillant sur ses jambes et lui ouvrant ses bras.
« Allons, viens là, tout près, mon pauvre enfant. Je ne m'oppose plus à rien. Il vaut mieux bénir que maudire. Ton Reboutou est un brave, un homme comme je les aime. De plus, c'est un saint. »
Le Marek chancela, éperdu de bonheur. Il tomba sur la poitrine de l'abbé en bégayant.
« Bien vrai, oh mon oncle, mon bon oncle !»
Et, extasié, à voix basse, « Faïque, ma femme, ce serait vrai !»